En cette année 1920, bien que partiellement inachevée, Waterloo Station, merveille de fer et de verre, était le glorieux symbole d'un empire britannique à son apogée. Comme chaque matin, le train de Douvres fit son entrée dans un nuage de vapeur. Les voyageurs avaient passé la nuit sur l'un de ces vieux packet boats à hélices qui assuraient la liaison entre les deux côtés de la Manche. Le trajet était plus long que sur le tout nouveau ferry boat en service depuis la fin de la Grande Guerre, mais cela était pourvu de couchettes et le sommeil gommait les inconvénients du mal de mer que pouvaient ressentir les passagers, surtout pour ceux qui voyageaient dans une cabine de première. L'arrivée du train s'annonça avec force coups de sifflet, les chefs de gare semblant vouloir faire concurrence à la sirène de la locomotive. Celle-ci acheva de ralentir dans un grincement de frein et vint heurter avec lenteur les butoirs qui fermaient la voie. Quelques instants plus tard, le flot des voyageurs les moins chargés s'écoulait déjà entre les frondaisons de la forêt d'acier qui s'étendait sous la verrière. Planté dans le hall, Joshua Bannockburn guettait la foule des arrivants avec anxiété. Il était d'assez grande taille et paraissait plutôt dégingandé dans son costume un peu trop large, d'une coupe démodée, comme souvent les hommes qui avaient passé 4 ans dans les tranchées de Picardie et qui peinaient à retrouver un emploi stable depuis leur démobilisation. Sa grosse casquette de tweed le situait dans la partie basse de la classe moyenne, celle où l'on a le plus de mal à déterminer une fois pour toutes dans quel milieu on va faire sa vie. L'ombre de barbe qui grisait ses joues sous-entendait qu'il avait été trop nerveux ou trop soucieux ce matin-là pour tenter de se raser. Bannockburn ignorait totalement à quoi ressemblait sa nouvelle employeuse venue du continent. Sa haute taille lui permettait néanmoins de scruter la masse de chapeaux et de plumes qui avançaient vers lui. À ses côtés se tenait une jeune femme à l'allure empruntée, manifestement peu à l'aise dans sa jupe plissée, sa veste aux épaules carrées et ses gros souliers plats.
« Tiens-toi droite !»
lui lança-t-il.
« Qu'est-ce que tu as ?»«
Je ne suis pas bien sans talons. J'ai l'impression d'être un canard. »«
Qu'importe ! Du moment que ce canard décroche un salaire !»«
Je ne suis pas sûr que tout cela soit une si bonne idée. »«
Fais-moi confiance. Elle n'est pas d'ici, elle n'y verra que du feu. »
Au passager qui voyageait léger, succéda le troupeau pachydermique des chariots à bagages poussés par des porteurs en bleu. La vue de Bannockburn fut bientôt entravée. Une montagne de valises s'interposait entre le quai et lui. Avec une exclamation rageuse, il contourna la muraille mue par les deux malheureux employés à casquette qui y étaient attelés et tomba nez à nez avec une petite dame très apprêtée, tirée à 4 épingles, dont le vêtement d'exploratrice devait avoir été conçu par quelque brillant tailleur parisien pour lui permettre de traverser n'importe quelle contrée sauvage sans rien perdre de son élégance. Dans ce costume couleur crème, coiffé d'un chapeau cloche qui évoquait le casque colonial, on l'aurait prise pour une aventurière venue affronter à coups de machette la jungle hostile des promenades du long de la Tamise.
« Mr. Bullingbroke, je présume ?» articula avec un fort accent français la petite bouche située sous le petit nez pointu de cette gravure de mode grandeur nature.
« Madame le chat !» dit Bannockburn. « Je vous attendais.
« Certainement, oui, »
dit la Française.
« C'est la présence de cette personne que je ne m'explique pas, »
ajouta-t-elle en désignant de la pointe de son parapluie la jeune femme qui la regardait avec un sourire niais.
« Permettez-moi de vous présenter Miss Rosetta Lyme. Vous aviez évoqué la nécessité d'engager une secrétaire. Or, Miss Lyme a une grande expérience de tout ce qui touche au secrétariat. »
Hortense le chat jaugea la postulante depuis son petit chapeau plat jusqu'à ses chaussures qu'il était également.
« J'en doute fort !»
lâcha-t-elle du ton d'un gastronome à qui l'on tente de refiler des escargots du jardin au lieu de petits gris.
« Mais... »
balbutia Joshua Bannockburn, tandis que son ami restait bouche bée.
« Je vous assure que... »
L'intervention des porteurs coupa court à la polémique. Ils étaient contents d'avoir pu souffler une minute, mais manifestaient à présent le souhait de se débarrasser de cette corvée plus pénible que prévu.
Vous voyagez toujours avec autant de bagages ?
Demanda Bannockburn en entraînant la petite troupe vers la sortie.
Bien sûr que non, dit Hortense le chat. Ce qui ne m'est pas strictement nécessaire arrivera plus tard.
Tandis qu'il faisait la queue dans la file d'attente pour les taxis, le chat chuchota à l'oreille de l'anglais.
« Je ne peux pas engager la fille que vous m'avez présentée. »«
Je vous assure que Miss Lyme est parfaitement qualifiée. »«
où je ne doute pas de ses qualités, comme prostituée. »
Il fallut un instant à Bannockburn pour retrouver sa respiration.
« Mais comment ? Voyons, Madame le chat. »
« Cette personne a fait commerce de ses charmes dans un passé très proche. »«
Qu'est-ce qui vous permet de dire cela ?»«
Sachez qu'Hortense le chat a un sixième sens pour cerner les personnalités troubles. »«
Je vous jure que vous faites erreur. Miss Lyme est une amie de longue date. Je réponds de sa moralité. »
« Je ne questionnerai pas vos fréquentations, c'est votre vie privée. Seulement, je ne me trompe jamais. »
Hortense le chat avisa une jeune femme dans la file qui serpentait sous l'auvent de la gare. Elle s'en approcha d'un pas résolu et lui toucha l'épaule avec son parapluie.
« Miss, vous êtes secrétaire, n'est-ce pas ? Voulez-vous travailler pour moi ? » ?»«
J'ai déjà une place, madame, » répondit l'inconnu avant de courir vers une voiture.
« Tant pis. » « Nous passerons une annonce demain dans le Cooking Sunday, » déclara le chat.
« C'est une revue de cuisine, » fit remarquer le nouvel assistant.
« Tant mieux. Notre recrue nous mitonnera des mets goulayants. »
Bien qu'il n'eût aucune idée de la signification de ce mot, Bannockburn estima que, tel qu'on était parti, on n'allait pas goulayer tant que ça. Deux véhicules furent nécessaires pour transporter les malles que les porteurs s'escrimèrent à arrimer sur le toit. Leur tâche harassante effectuée, essoufflés, en sueur, ils ôtèrent leur couvre-chef comme pour remercier d'avance la généreuse donatrice censée les couvrir d'or. Celle-ci fit signe à son assistant.
« Donnez-leur quelque chose, je n'ai que des francs. »
Bannockburn vida à regret son porte-monnaie dans les paluches des porteurs. Puis, l'employeuse et l'employé prirent place dans la première voiture, Miss Lyme dans la seconde. Hortense le chat resta longtemps silencieuse, l'œil fixé sur le paysage londonien qui défilait derrière la vitre. Bannockburn se dit que ce trajet était une excellente occasion de mieux faire connaissance.
« Ainsi, vous êtes une auxiliaire de police à la retraite, » dit Bannockburn.
« Moi ? Quelle idée !
Eh bien, vous m'avez écrit que vous désiriez ouvrir une agence de détective privé. J'en ai déduit que... »
« Laissez-moi les déductions, mon ami, » le coupa la Française. « Mon ancienne profession n'avait aucun rapport avec tout ça. Seule ma hantise du désœuvrement m'a poussé vers ce nouveau métier.
» fit son assistant.
« Pourquoi vous installer à Londres ? » ajouta-t-il pour changer de sujet.
« Vous n'ignorez sûrement pas que l'Angleterre est le pays des grands détectives. »
« Ah, Sherlock Holmes !»
« Oui, lui aussi. Et puis, je parle moult bien l'idiome indigène. »«
Moult bien ?»
songea Bannockburn, incapable de définir si ce qu'elle venait de dire était de l'anglais d'une époque oubliée, du patois de l'East End ou quelque expression tombée de la lune.
« Je vois. Puis-je savoir comment vous avez si bien appris notre langue ?»« Je suis diplômé en littérature anglaise médiévale. »
Il est évident à vous entendre que vous êtes une femme de lettres.
Merci. Ma thèse portait sur les métaphores animalières dans les contes de Canterbury de Chaucer.
Mais vous connaissez tout cela par cœur, je pense.
Bien sûr, bien sûr.
Par bonheur, le chauffeur coupa son moteur. L'arrivée à destination dispensa Bannockburn d'une interrogation orale sur la création romanesque au XIVe siècle. Il s'empressa de sortir de la voiture et prit pied sur le trottoir.
« Voici Usher House, » déclara-t-il.
« Vous remarquerez l'architecture typique. »«
Ah, glorieuse masure !»
s'écria Madame le chat. Ce qu'elle vit d'abord fut la double porte à laquelle on accédait par quelques marches. Sa somptueuse décoration de bronze doré sur un fond noir comme l'enfer vous sautait au visage. Des arceaux d'or brillaient sur la pénombre comme la vertu sur le péché. Il ne manquait qu'une inscription gravée sur le linteau où l'on aurait pu lire « Toi qui entres ici, abandonne toute espérance. » Usher House était une construction d'un style composite mélangé d'éléments art nouveau. Le sommet avait été transformé en une penthouse depuis lequel on devait jouir d'une vue dominante sur les toits alentours.